France Inter.
Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, le grand jeu de la déstabilisation dont Moscou est passé maître. Enquête sur les ingérences de la Russie et de ses alliés dans la France des Outre-mer. Nouvelle-Calédonie, Mayotte, détail dans un instant. Pour une concurrence équitable avec la Chine, Xi Jinping à l'Elysée sera-t-il réceptif au message de l'Europe? Les différents commerciaux sont lourds de conséquences pour le continent, on va l'entendre. La une ce matin, c'est aussi l'armée israélienne qui commence à évacuer les civils de Rafah et l'impossible trêve à Gaza. On en parle dans 20 minutes avec votre invité Nicolas.
Oui, dans le grand entretien de la matinale avec Yaël Gauz, nous recevons Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères, aujourd'hui représentant personnel d'Emmanuel Macron au Liban. Vos questions 01 45 24 7000 et l'application de France Inter.
Trois morts en moins de 48 heures à Sevran en Seine-Saint-Denis, trois hommes tués par balle et c'est le trafic de drogue qui est encore pointé du doigt. Et si on prolongeait les vacances, le dilemme de la zone B ce matin, avant le grand pont de l'Ascension, pour certains ça fera trois semaines de congé. On va les entendre. Et puis PSG Dortmund a un match à prix d'or, jusqu'à 4000 euros la place au Parc des Princes à la revente. Certains cassent leur tirelire. Pour cette demi-finale retour de Ligue des Champions, c'est demain.
France Inter.
Que vient faire l'Azerbaïdjan, ancienne république soviétique d'Asie centrale, en Nouvelle-Calédonie? Pourquoi la Russie s'intéresse-t-elle à Mayotte? Dans les deux cas, c'est la France qui est concernée et dans les deux cas, on appelle ça de l'ingérence. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour à tous.
Vous avez enquêté au sein de la cellule investigation de Radio France sur ces tentatives de déstabilisation de Moscou et de ses alliés. Nous sommes donc cette fois loin de Paris et de l'Hexagone, en Outre-mer et d'abord en Nouvelle-Calédonie.
Oui, là-bas, depuis le début de l'année, plusieurs manifestations ont rassemblé des milliers d'indépendantistes opposés à la réforme du corps électoral. Et dans les cortèges, étrangement, on a vu apparaître des drapeaux azéris. L'Azerbaïdjan n'a pas apprécié que la France critique ses interventions militaires au Haut-Karabakh. Alors, il lance des opérations de déstabilisation tous azimuts contre les autorités françaises et donc, il soutient les indépendantistes ultramarins via une structure dédiée, le groupe d'initiative de Bakou. Il y a trois semaines, une élue indépendantiste de Nouvelle-Calédonie s'est même rendue au Parlement azéri pour y signer un mémorandum. Plusieurs élus loyalistes ont ainsi saisi le procureur de Nouméa. Selon leur courrier que nous avons pu consulter, ils estiment que cette démarche relève de la trahison.
Et la semaine dernière à l'Assemblée, Gérald Darmanin lui-même a officiellement dénoncé l'ingérence extrêmement néfaste de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie. Frédéric, la Russie y a aussi entamé un travail de sape contre la France.
Oui, dans ces manifestations indépendantistes, on a aussi vu des banderoles appelant Vladimir Poutine à l'aide. Pour Bastien Van Den Dyck, analyste en relations internationales qui nous parle depuis Nouméa, la stratégie russe de guerre hybride est bien rodée.
La Russie pourrait faire dans le Pacifique ce qu'elle a fait en Afrique, c'est-à-dire jouer sur les ressentiments anti-français pour déstabiliser la présidence française. Sur les réseaux sociaux, on observe aussi la création de vidéos créées et partagées par des comptes qui ne sont pas hébergés en Nouvelle-Calédonie et qui ont parfois des origines russes.
Et la stratégie est la même à Mayotte, dans l'océan Indien, cible de campagnes de désinformation via les réseaux sociaux et de cyberattaques contre les services publics. Là encore, la Russie appuie la où ça fait mal. Elle se dit prête à aider les Comores voisines qui revendiquent Mayotte. La Russie est très implantée aux Comores, devenue un avant-poste russe à quelques kilomètres d'un département français stratégique, car tout près de Mayotte, Total exploite du gaz.
Frédéric Mettezo de la cellule d'investigation de Radio France, Azerbaïdjan, Russie, Chine, enquête sur les ingérences étrangères dans les outre-mer français, c'est à lire en longueur sur franceinter.fr. Et quand un régime laisse planer une menace sur ses ressortissants à l'étranger, c'est la Chine dont le président Xi Jinping est arrivé en France hier pour une visite d'État jusqu'à demain soir. Peu de commentaires sur ce voyage dans la communauté chinoise en France. Discrétion de rigueur dans le Chinatown parisien, Gabin Grulet.
Au cœur du 13e arrondissement, beaucoup d'habitants et de commerçants font non de la tête, ils ne veulent pas parler.
On a encore la famille en Chine, donc on préfère ne pas avoir des problèmes après.
Cette Parisienne y a vécu jusqu'à ses 13 ans, c'est tout ce qu'elle dira à propos d'elle, elle préfère rester anonyme.
On n'a pas du tout la liberté de la parole ou quoi que ce soit, quoi.
Tous les soirs, elle regarde quand même le journal télévisé chinois. Selon elle, la situation du pays est
catastrophique. Partout dans les infos, en fait, c'est à chaque fois c'est Xi, c'est le meilleur et tout.
Xi, c'est Xi Jinping.
Qu'est-ce qu'il a fait, etc. On chante sa chanson, quoi, en gros. C'est un lavage de cerveau, quoi.
Adrien, lui, accepte de donner son prénom. Ce gérant d'un supermarché à Belleville, au nord-est de Paris, aime bien Xi Jinping.
Je pense que c'est un bon président. Il a fait du bien, quand même, aux gens. On a moins de liberté, ça, c'est sûr. Mais en tout cas, niveau sécurité, après niveau même l'économie, ça tourne bien, quoi.
Mais ici, peu de personnes savent par contre que le président chinois vient en France.
Je n'étais pas du tout en courant.
Sui n'a pas d'avis. Elle s'occupe surtout de la cuisson des nouilles derrière le comptoir de son restaurant.
De toute façon, il ne vient pas nous voir. Il ne va pas venir dans les quartiers chinois. Il va voir, ici, il y a des Chinois, voilà. Moi, le plus important, c'est que si j'ai des clients ou pas.
Mais comme elle, la plupart le disent maintenant qu'ils sont en France, la politique chinoise, ils la regardent de loin.
La politique chinoise au cœur des enjeux de la visite de Xi Jinping ce matin à l'Élysée. Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne vont parler commerce avec lui. Ursula von der Leyen a prévenu cette nuit, elle exigera une concurrence équitable avec la Chine qui subventionne largement son industrie et menace la survie de secteurs entiers en Europe. Fabien Cazot.
Lors de la récente faillite du fabricant nantais de panneaux solaires Systovi, c'est la concurrence chinoise qui a été immédiatement pointée du doigt. La Commission européenne avait déjà lancé début avril deux enquêtes pour pratiques anticoncurrentielles présumées dans ce secteur qui permettraient aux fabricants chinois de casser leurs prix et donc de saturer les marchés occidentaux. Même cause et mêmes effets dans le domaine de la chimie. Les difficultés actuelles du fabricant d'acides aminés Metex en Moselle et dans la Somme en témoignent. Autre secteur particulièrement sensible, les batteries et les voitures électriques. Alors que le constructeur chinois BYD ouvre ses premières concessions en France, notre filière automobile s'inquiète d'une concurrence qui n'a rien de réciproque, tant Renault et Stellantis peinent à percer sur le marché chinois. Signe d'adversité commerciale croissante, la Chine s'est elle aussi lancée dans des enquêtes, c'est nouveau, sur d'éventuelles aides déguisées en Europe. Une riposte qui vise notamment, pour ce qui concerne la France, les producteurs de cognac.
Fabien Cazot, dans ce contexte, la France veut multiplier par 3 ou presque les ventes de voitures électriques d'ici 3 ans seulement. Objectif fixé par le gouvernement avec les constructeurs pour atteindre 800 000 ventes en 2027 et se préparer au 100% électrique décrété pour 2035 en Europe.
Il est 8h08. Reste-t-il un espoir de trêve à Gaza ?
Officiellement, les discussions se poursuivent ce lundi au Qatar, mais le Hamas exige un arrêt définitif des combats. Inacceptable, a répété Benjamin Netanyahou, qui vise toujours Rafah, ville surpeuplée du sud de l'enclave, où s'entassent 1 200 000 habitants poussés par les combats. L'offensive ce matin semble se préparer plus précisément. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Jérusalem, où l'armée appelle ce matin les civils de l'est de Rafah à évacuer la zone.
Et c'est sous une pluie battante que les opérations d'évacuation de Rafah ont commencé très tôt ce matin, avec d'abord des messages envoyés en arabe et en anglais pour encourager, c'est le mot utilisé par l'armée, la population à quitter la grande ville du sud. Alors l'armée ne parle pas d'évacuation de grande ampleur, mais d'une évacuation temporaire qui concerne des centaines de milliers de personnes. La zone concernée se situe à la lisière du corridor de Philadelphie qui sépare l'enclave de l'Égypte. Les civils sont donc encouragés à rejoindre au nord le bord de mer vers la localité d'Al-Mawassi. Cette opération promise depuis des semaines par le Premier ministre Benjamin Netanyahou a donc été lancée alors qu'encore en fin de semaine, le Hamas et Israël étaient proches d'un accord de trêve. Hier, le point de passage de Kerem Shalom, juste à côté de la zone évacuée et par où transite l'aide humanitaire, a été attaqué au tir de mortier. 3 soldats sont morts. L'opération d'évacuation pourrait durer au moins plusieurs jours. L'objectif de l'armée israélienne est de démanteler les 4 derniers bataillons du Hamas encore opérationnels.
Thibault Lefebvre, correspondant de France Inter à Jérusalem. Mais jusqu'où ira-t-il dans l'outrance ? Donald Trump a, selon les médias américains, comparé l'administration Biden à la Gestapo, l'accusant d'instrumentaliser la justice. Consternation à la Maison-Blanche et dans l'équipe de campagne de Biden.
Il est 8h10 en France, la ville de Sevran, en Seine-Saint-Denis, théâtre de 2 fusillades pendant le week-end.
Elles ont fait 3 morts entre vendredi soir et hier. En fin de journée, 3 hommes tués pare-balles. Gaël Joly, le préfet de police, Laurent Nunez, s'est rendu sur place. Il dénonce des fusillades liées au trafic de drogue.
Les deux victimes, âgées de 31 et 35 ans, ont été tuées vers 18h hier dans la cité des Beaudottes. Ils étaient connus des services de police pour violence et trafic de stupéfiants. Des tirs qui interviennent moins de 48 heures après une autre fusillade dans le même quartier à moins de 2 km. Vendredi soir, un peu avant minuit, un homme de 28 ans a été tué et plusieurs autres blessés. Deux hommes sont arrivés à bord d'une voiture avant de sortir leur arme. Plus de 20 douilles de type Kalachnikov ont été retrouvées sur place. Après Marseille, Sevran avait fait l'objet d'une opération antidrogue PlaceNet XXL qui déstabilise les trafiquants, selon le préfet de police Laurent Nunez, qui a assuré aux habitants de Sevran continuer la lutte contre le trafic de drogue avec la présence renforcée ces prochaines semaines de policiers locaux.
Cette nuit, c'est un adolescent de 17 ans qui a été tué par balle à Marseille dans le 13e arrondissement. SOS Racisme, la LICRA, les représentants des cultes réunis par le gouvernement pour des assises de la lutte contre l'antisémitisme aujourd'hui, alors que le nombre d'actes antisémites a presque quadruplé l'an dernier avec une hausse en flèche après le 7 octobre. Mettre un réveil ou pas, la semaine sera courte pour tous les élèves de France et sans doute aussi pour leurs parents. Deux jours d'école ou de boulot, puis à partir de mercredi, le grand pont jusqu'à dimanche, sachant que la zone B rentre de vacances ce matin. Alors faut-il reprendre les cours pour deux jours ou enchaîner sur une troisième semaine de vacances? Question posée par Hélène Fromanti à Lille.
Certains lycéens sont bien tentés de sécher les cours ce matin pour prolonger les vacances.
Je pense que je vais pas y aller au lycée. Pour me reposer. Trois semaines, c'est nickel, trois semaines.
Franchement, ça sert à rien, mais je pense que mes parents, ils vont me dire que j'y allais.
Moi, j'ai mon bac blanc, donc je vais venir.
Quant à ceux qui n'ont pas d'examen cette semaine, la tentation est encore plus forte. C'est le cas des étudiants en classe préparatoire au lycée Federbe à Lille. Sophie a décidé de profiter de tous ses jours fériés pour rester en famille.
Moi, j'habite sur la côte ouest, donc pas du tout à côté de Lille. C'est une zone qui est plutôt touristique. Du coup, les billets de train pour revenir sont extrêmement chers et pour repartir sont extrêmement chers. Donc, j'ai préféré rester chez moi pour les trois semaines au lieu de dépenser inutilement de l'argent.
Du côté de l'Université de Lille, Frédéric Oxtoel espère bien que les étudiants seront sur les bancs de la fac aujourd'hui.
C'est vrai que les étudiants vont avoir envie, comme nous d'ailleurs, d'être au beau temps, mais bon, normalement il y a cours à l'université, oui.
Les étudiants font le pont, tout comme cet enseignant-chercheur en informatique.
C'est pas tous les ans, mais cette année, il y aura le pont, voilà. Parce que les étudiants, on va pas les faire revenir pour une journée, il y en a qui habitent loin, dans leur famille, tout ça, je pense que c'est logique de leur laisser une journée, on n'est pas à ça près. Il faudrait rajouter, c'est des semaines d'enseignement et diminuer un peu les volumes des stages.
Pour cet enseignant, la fin de l'année est de plus en plus tôt, avec des étudiants qui partent en stage dès ce mois-ci.
Hélène Fromanti, France Bleu Nord, bonne fin de vacances donc à la zone B. Dans la série, il en manque à l'hôpital. Les perfusionnistes sonnent l'alerte, indispensable dans les blocs opératoires. Ils sont à peine 300 en France et demandent la reconnaissance de la spécificité de leur métier pour le rendre plus attractif. Les perfusionnistes, c'est peut-être la première fois que vous en entendez parler. Les voici en plein travail. C'est un reportage de Victor Delande à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Dans le bloc opératoire, un homme de 73 ans doit subir un pontage coronarien. Mais pour réparer l'artère obstruée, il faut d'abord arrêter le cœur. Le patient reste donc en vie grâce à la circulation extracorporelle, la CEC.
Départ CEC.
Entendu, départ CEC.
Guillaume Le Breton, professeur en chirurgie cardiovasculaire.
Dès lors qu'on arrête le cœur, en fait, le patient il est maintenu en vie que par la circulation extracorporelle. La machine qui remplace le cœur et les poumons, qui va pomper le sang à la place du cœur et qui va l'oxygéner, c'est géré exclusivement par le perfusionniste qui gère cette machine et qui maintient le patient en vie.
Derrière sa machine, le perfusionniste Emmanuel Corolle est en alerte permanente.
Il y a une cinquantaine de paramètres à surveiller, à réajuster toutes les minutes. C'est une vigilance à chaque instant parce que quand on tourne à un débit à 4, 5, voire 6 litres minute de sang, l'accident peut arriver très très rapidement.
5 ans d'études, 2000 euros par mois en début de carrière et un statut d'infirmier qui ne suffit pas à la profession. Le chirurgien Guillaume Le Breton les défend.
Sans perfusionniste, il n'y a pas de chirurgie cardiaque. Donc nous, notre activité, elle dépend directement des perfusionnistes. Et reconnaître un statut à des gens qui ont un métier hyper spécialisé et avec autant de responsabilités, ça me paraît juste normal en fait.
Il manque une cinquantaine de perfusionnistes en France, à tel point que certains hôpitaux sont obligés d'aller en chercher
en Belgique ou en Italie à des prix exorbitants.
Un reportage au bloc signé Victor Dolan. Le syndicat des perfusionnistes a été reçu vendredi dernier par le ministère de la Santé. Ensemble, ils étudient la possibilité de reconnaître une spécificité au métier et donc de créer une nouvelle nomenclature. Au théâtre, ce soir, Rachida Dati pour un baptême du feu, ses premiers Molières. La cérémonie qui récompense une année sur les planches dans un contexte d'économie demandée haut et par le ministère de la Culture. La soirée pourrait bien être très politique, comme régulièrement. Depuis 20 ans, l'an dernier, la prédécesseur de Rachida Dati avait même pris la parole, Stéphane Capron.
D'habitude, le rôle du ministre, c'est de rester assis à rien dire, mais là, c'est pas possible.
L'année dernière, pour la première fois depuis la création de ces cérémonies à la télévision, Rima Abdulmalak a demandé un micro pour répondre à l'interpellation de deux comédiennes.
Vous avez un ministère qui a débloqué des aides massives pendant la crise pour vous soutenir tous, pour soutenir tous les secteurs de la culture.
En 2004, la soirée est annulée suite à la grève des techniciens du Théâtre des Champs-Élysées. Michel Drucker avait remis les trophées sans micro.
Je n'ai jamais vu autant de journalistes pour un tel fiasco.
Et le ministre de la Culture de l'époque, Renaud Donodieu de Vabre, tentait une médiation en coulisses.
Je voudrais pouvoir discuter tranquillement deux secondes.
2019, un groupe d'intermittents et de gilets jaunes passe par le toit des Folies Bergères et décerne un Molière de la honte à Emmanuel Macron. La séquence est coupée au montage par France Télévisions.
Il devient de plus en plus difficile de vivre décemment de son art ou de son savoir-faire et de bénéficier du chômage quand nous n'avons pas d'emploi.
Jean-Marc Dumonté, le président des Molières, s'attend à de nouvelles prises de parole ce soir.
Ça fait partie des Molières, c'est un espace de liberté qui est donné à chacun de s'exprimer. C'est un moment aussi où on peut affronter des réalités, on a la ministre en face de nous.
Et cette soirée des Molières sera un test pour Rachida Dati. Ce sera son premier face-à-face avec le monde du théâtre depuis son arrivée rue de Valois.
Et parmi les favoris de la soirée, Courgette et le cercle des poètes disparus côté spectacle, Ariane Ascaride, Roche Dizem, Ludivine Sagné ou encore Laurent Lafitte chez les comédiens. Papin, Jean-Pierre, légende de l'OM, Tony Parker, l'ex-basketteur, Soprano, le rappeur, ils feront partie de la centaine de premiers porteurs de la flamme olympique à Marseille. Elle arrive mercredi où elle débarquera du 3 mâts le Belém en provenance de son berceau, la Grèce, le premier à la prendre en main cette flamme, ce sera Florent Manaudou. Enfin, c'est combien pour voir le match PSG Dortmund demain soir, demi-finale retour de Ligue des Champions. Dans tous les cas, il faudra payer un abonnement télé ou son billet pour le stade, le Parc des Princes. Et là, on parle d'aimer sans compter, puisque le premier prix sur la plateforme de revente officielle du PSG, c'est 375€ la place, jusqu'à 4000 pour les meilleurs. Alors, casser sa tirelire ou pas, Thomas Vichard, c'est le dilemme des supporters.
Maxime était prêt à mettre 600€ pour une place. Il en a finalement trouvé une à 450 et fera la route demain depuis Clermont.
J'ai jamais mis une telle somme et une demi-finale retour au Parc. Il n'y en a pas eu 50 dans l'histoire, donc c'est au stade qu'il faut la vivre.
C'est la même réflexion qui a poussé Thomas, 27 ans, à débourser 700€ en tout. À près de 500€ le billet, plus le transport depuis Rodez dans l'Aveyron et l'hébergement à Paris. Mais comme il n'a jamais vu le PSG au Parc des Princes, cette demi-finale, c'est le moment idéal.
Ça fera peut-être partie de mon top 5 des plus beaux jours de ma vie. Pour ces souvenirs-là, est-ce qu'il y a une valeur ? Non, je pense pas, donc on ferme les yeux.
Hugo a lui renoncé. Il n'a rien trouvé à moins de 400€ et comme il est étudiant en alternance, impossible de mettre autant d'argent sur la table.
Ça représente presque un quart de mon salaire. C'est soit on va voir le match et on mange des pâtes, ou soit on essaie de vivre convenablement et on regarde le match avec des potes.
Des prix si hauts, ça désespère Elodie. Cette ancienne abonnée de la Tribune Auteuil pendant 20 ans craint de voir encore des travées remplies de spectateurs et non de supporters.
On est là en train de nous dire tout le stade doit être debout, mais les gens qui sont fanatiques et tout, est-ce qu'ils vont avoir les moyens de prendre des place pour mettre une ambiance, je suis pas sûr en fait.
Si Elodie a abandonné l'idée de s'acheter un billet, au cas où, elle tente quand même sa chance dans des jeux concours qui offrent des places.
Voilà, PSG Dortmund, 21h demain soir au Parc des Princes. Et merci de ne pas être défaitiste, messieurs, autour de la table.
Vous faites bien de nous le rappeler, Florence Paracuelos. Merci. L'actrice Emmanuelle Berco à l'affiche de l'Esprit Coubertin de Jérémy Saint et l'invité de Léa Salamé tout à l'heure. À 9h20, la météo, Marie-Pierre
Blanchon. La météo, avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Et un temps perturbé encore ce matin.
Oui, c'est pas le pied, Nicolas, et pluvieux sur une bonne partie du pays, car on est cerné par une perturbation, en fait, qui a glissé vers l'est, qu'on retrouve aujourd'hui, là, des Hauts-de-France au Grand Est, au Centre-Est, avec des averses plus éparses sur le sud du Massif Central, au Golfe du Lion, à la Côte d'Azur, avec de la neige sur les Pyrénées et les Alpes. Et puis, à l'opposé, on a une goutte froide sur l'Atlantique qui donne des averses, qui s'enroulent autour d'une petite dépression sur la Bretagne ce matin, jusqu'au Pays de la Loire, avec déjà un caractère orageux. Et en milieu de ces deux zones perturbées, on a une bande assez large du Pays Basque en montant vers les Charentes, au Limousin, l'Île-de-France, à la Normandie, avec un ciel plus ou moins nuageux, avec pas plus de 7 degrés en Ille-et-Vilaine, à Fougères, comme dans la Manche, 9 à Guéret, alors qu'il fait 14 à Mulhouse, 15 à Pézenas dans l'Hérault.
Et encore plus de pluie et d'orage cet après-midi.
Oui, mais on attend quand même une amélioration pour jeudi, hein, Nicolas, même si la perturbation donc s'échappe à l'est, elle arrosera encore les régions de l'Alsace aux Alpes, à la Provence, jusqu'à la Méditerranée, aux Pyrénées, avec de la neige à 2000 mètres comme sur les Alpes, mais la Corse restera sous un ciel voilé. Et à l'opposé, bien les pluies liées à la goutte froide rentreront davantage sur l'ouest avec des pluies, mais aussi des orages de la Normandie aux Charentes à l'est de la Bretagne et des averses qui gagneront également les régions de l'Île-de-France au centre. En revanche, retour de quelques éclaircies des Landes à l'Auvergne et à la Lorraine, mais une averse n'est pas exclue sous des températures de saison avec 15 à Rouen, 16 à Lyon et Nantes. Vous aurez 19 à Paris comme à Nice, 26 à Ajaccio, en se rappelant, Nicolas, que s'il pleut à la petite Saint-Jean, le temps s'en ressent jusqu'à la grande Saint-Jean.
Il peut y avoir une certaine logique là-dedans. Merci Marie-Pierre Blanchon.
Bravo.
Il est 8h21. Bon.